7 juin 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève. Anthony Desaulniers, Martin Thériault, Nicolas Cloutier, comme à l'habitude, comme à chaque semaine, on est avec vous pour vous parler des prospects qui retiennent notre attention un peu partout à travers la planète. OK, messieurs, en cette journée de canicule, la sentez-vous la fièvre des séries à Montréal?
Absolument, là, elle gagne de plus en plus Montréal. Je dirais que je la sentais pas vraiment au début des séries éliminatoires. Il y avait peut-être un petit délai, les terrasses n'étaient pas encore ouvertes. Mais là, de plus en plus, là, avec ce qui se passe, avec les tenanciers qui se préparent petit à petit, on sent qu'elle gagne Montréal. Là.
Non, mais tout à fait. C'est vraiment, vraiment plaisant à voir. Là. Seulement hier, je me promenais dans les rues. Là, moi, je suis à Sainte-Julie sur la rive sud de Montréal. Là, puis, sortez les fagnons. Là, on est là. Là. Écoute, ouais. La ferveur est là. Puis, écoutez, vous le savez, les gars, on travaille à TVA tous les trois. Là. Puis, les concierges nous parlent constamment de hockey, de Cole Caulfield, des Canadiens. On a hâte de les voir performer. On capote sur Carey Price, littéralement. Là. Ça fait du bien à entendre. Honnêtement, ça faisait longtemps.
Là. J'aime ça ce temps-là d'année parce que tu n'as pas à être un fan de hockey pour être partisan des Canadiens de Montréal. Tout le monde se rallie un peu derrière les Canadiens. Alors, monsieur, madame, tout le monde devient un partisan des Canadiens par défaut parce que ça fait partie de notre culture. C'est imbriqué en nous, les Québécois, cet amour-là pour la Sainte-Flanelle. Fait que je trouve ça tellement beau à voir parce que ça nous unit un peu en tant que peuple.
Tu parles, Marty, que les concierges, puis un peu monsieur, madame, tout le monde, nous parlent de hockey. Moi, j'entends énormément de commentaires sur comment ça se fait que Romanov n'a pas encore joué dans cette série. Et je le sais que je suis fatigué avec ça, je le sais que j'en parle à chaque semaine, mais moi, ça ne me rentre toujours pas dans la tête qu'on ne lui a pas encore fait confiance, malgré l'énorme erreur de Gustafsson qui a coûté un but face aux Jets. On a continué à y aller avec Gustafsson.
C'est bien repris, Gustafsson.
Et c'est très bien repris. Ceci dit, ça, c'est vrai.
Faut lui donner. Honnêtement, Eric Gustafsson, hier, on ne peut rien lui reprocher. Je vois un excellent match, autant en attaque qu'en défense.
Il va en faire des erreurs, Gustafsson, mais je pense que les Canadiens sont prêts à vivre avec les erreurs de Gustafsson en raison de ce qu'il peut apporter en relance et sur l'avantage numérique. Et tandis qu'à l'attaque, ben, Romanov est un peu plus limité. Donc, quand il se met à faire des revirements, ben, comme on l'a vu en faire en fin de saison, ben, qu'est-ce qu'il t'apporte de l'autre côté de la patinoire? Ben, il t'en apporte beaucoup moins, malheureusement.
Oui, mais ça reste qu'on n'a pas voulu insérer Romanov dans la formation parce qu'on a peur de ses erreurs en défensive, mais là, on passe par-dessus des erreurs en défensive de Gustafsson. Mais c'est pas là mon point. Mon point, c'est plus, je m'attendais à ce qu'il joue le match suivant. Là, hier, on l'a vu, Petrie joue de malchance, son petit doigt là, se glisse dans le trou du photographe et semble se blesser à la main droite. Est-ce qu'il sera en uniforme ce soir? Moi, personnellement, alors que le Canadien est en avance 3-0, il n'y a aucune raison de mettre Jeff Petrie dans la formation. Deux matchs en deux soirs, donnons-lui une pause. Même s'il est capable de jouer, il reviendra dans le match numéro 5 si jamais le Canadien
ça, je
ne
suis pas d'accord, par exemple. Là, je veux dire, non, tu dois mettre ton pied sur la gorge des Jets. Là, ne pas leur donner une raison là, de vivre, une raison d'y croire encore. Tu ne veux pas leur donner un iota d'espoir, les Jets de Winnipeg.
Oui, je veux dire, Petrie, s'il y a risque de blessure, il risque d'aggraver sa blessure et qu'il soit indisponible pour le reste des séries parce que sa main elle est fragile.
Ah, ben là,
j'aime pas mal mieux prendre une pause, là, lui donner un break en bon français, là, et le ramener dans la formation plus tard. Donc, moi, personnellement, il faut voir Alexander Romanov ce soir et au moment qu'on enregistre ce podcast, là, il est à peu près midi. C'est toujours pas sorti, donc ce sera intéressant à surveiller.
Ben, sais-tu quoi? J'ai l'impression, puis je veux pas être plate, là, ça va peut-être te scandaliser, Anthony, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Xavier Ouellet qui va jouer ce soir, parce que j'ai l'impression que tant et aussi longtemps qu'il y a une option viable pour insérer un défenseur dans la formation, ben, ça sera pas Romanov. On va vraiment insérer Romanov dans la formation quand on n'aura aucun autre choix, là.
Je suis scandalisé. Voilà, c'est dit. le Canada, bon, rapidement, Marty.
Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas donner une raison aux Jets de se motiver. Puis Alexander Romanov, comme on l'a mentionné la semaine dernière, il a fait quand même plusieurs erreurs en fin de saison. Donc, est-ce que tu veux donner de l'oxygène aux Jets de dire, écoutez, le jeune vient débarquer, ça a été une fin de saison difficile. Rappelez-vous, là, puis là, je dis n'importe quoi, là, mais supposons que le dernier match entre les deux équipes en saison régulière, supposons que ça serait mal déroulé pour Romanov. Mais là, tu as une raison d'y croire. Tu dis, OK, on va passer de son côté. On va être capable de se motiver avec ça. Tu peux aller chercher un ou deux ou trois buts. Puis là, par la suite, ben, tu veux tout simplement pas donner d'oxygène aux Jets. Donc, non, je pense que... Peut-être pas de là à dire que Xavier Ouellet va assurément jouer si, si on doit trouver un remplaçant, mais je suis un peu d'accord avec Nick là-dessus.
Ah, moi, en tout cas, Xavier Ouellet, c'est rien contre lui, c'est un bon gars. Il avait joué dans la bulle à Toronto, c'est bien correct. Honnêtement, si on préfère Xavier Ouellet à Alexander Romanov, je trouvais ça.
Mais regarde, sais-tu quoi des autres? T'es dans la majorité à penser ça. Là. Moi et Marty, là, on est dans une très faible minorité.
C'est vous, les méchants. Ouais. Bon, on parle d'un jeune défenseur avec le Canadien. Il y en a un autre qui a fait jaser dans les derniers jours, c'est Mathias Norlinder, puisqu'il a signé son contrat d'entrée avec le Canadien, contrat de 3 ans. Cependant, Nick, tout porte à croire qu'il ne jouera pas avec le Rocket l'année prochaine. Il devrait demeurer.
Oui. J'ai vu beaucoup d'informations erronées circuler là, des gens qui tenaient pour acquis que Norlinder allait automatiquement jouer dans la Ligue américaine à Laval l'an prochain. Ben, je peux vous dire, les gars, que ce n'est pas ça qui va se passer. Ben, déjà, l'hiver dernier, je parlais à Mathias Norlinder au téléphone, mais il m'a dit qu'il comptait honorer son contrat de 2 saisons avec Frölunda. Donc, il reste 1 saison à son contrat en Suède. Donc, ça va être... Et si tu regardes la clause dans son contrat, si le Canadien décide de ne pas le garder dans son équipe, ben, il est obligé d'aller en Europe. Et moi, donc, ce sera Montréal ou Frölunda pour Norlinder. Il n'y a pas d'autre option. Et Norlinder n'est pas prêt pour la Ligue nationale d'hockey, on s'entend. Là. Moi, je m'attends à une grosse saison en Suède. Moi, c'est ça. Et moi, je crois beaucoup en Norlinder. Okay? Je m'attends à une grosse saison en Suède de sa part. Et après, on risque de le voir avec les Canadiens.
Mais sa blessure à un genou lui a quand même nu beaucoup. Il a eu un excellent début de saison. Je me souviens d'avoir vu des matchs de Frölunda. Il avait une excellente chimie en avantage numérique avec Lucas Raymond, qui lui jouait à gauche, puis Norlinder faisait la... c'était lui à la pointe sur la formation parapluie, si tu veux. Là.
Ouais.
Ça fonctionnait super bien, mais sa blessure à un genou qui est arrivée autour de la période des fêtes l'a un peu ralenti. Puis par la suite, je suis obligé d'être d'accord avec Nick. Ça a été difficile, là. Honnêtement. Défensivement, ça a été laborieux. Est-ce qu'il était craintif? Tout porte à croire que oui. Là. Au niveau physique, il avait peut-être du mal parfois à bien jouer un contre un devant le filet. Donc, puis regardez ses statistiques, là, 10 points en 37 rencontres. Je pense que c'est pas perdu du tout pour lui de retourner à Frölunda. Puis on le mentionne souvent, les gars. Frölunda est probablement le meilleur programme de hockey. Je dis en Suède, mais peut-être même en Scandinavie, j'inclus peut-être même la Finlande. Oh, c'est peut-être le meilleur programme de développement pour les jeunes joueurs. Regardez Arturi Lehkonen, par exemple.
Absolument. Les gens, ils voulaient le voir avec Joël Bouchard, là, mais arrêtez de croire qu'il n'est pas entre bonnes mains en Suède. Là. C'est une super bonne école de développement. Arturi Lehkonen est arrivé à Montréal. Il n'a pas eu à jouer un match dans la Ligue américaine. Le gars était déjà prêt. Alors arrêtez de vous en faire avec ça. Là. Le développement de Norlinder est entre très bonnes mains. Et moi, je veux rebondir sur ce que Marty a dit sur son jeu défensif. C'est vrai qu'il y a une tendance à être un peu trop laid back là, dans sa zone.
Il est très relax. Il est un peu trop relax.
Pas le sentiment d'urgence.
C'est ça, exact.
Mais il est capable de jouer en défensive, Mathias Norlinder. Je sais qu'on parle de lui comme un défenseur offensif, mais il a des aptitudes pour bien jouer en défensive. On les voit ressortir, ces qualités-là, dans un match de hockey parfois. Moi, je parle de sa mobilité. Il est capable de refermer l'espace. Il est capable, il a un très bon bâton. Il peut tuer des jeux et amener la rondelle de l'autre côté. Je te dirais que c'est... c'est drôle parce que son entraîneur me disait ça et Norlinder me disait la même affaire aussi. Il disait que c'est surtout sur le plan offensif qu'il trouve qu'il a déçu cette saison, mais défensivement, dans l'ensemble, il pense que ça en est quand même bien sorti, là, malgré, même si les défauts que tu as remarqués sont légitimes, Marty, il va devoir travailler là-dessus avant d'arriver en Amérique du Nord. Ben, c'est ça. Peut-être que c'est parce qu'il a perdu un peu de confiance lorsqu'il a subi sa blessure, mais quand il est revenu, des fois, il ne trouvait pas toujours les bons moments pour appuyer l'attaque. Peut-être qu'il n'appuyait même pas assez l'attaque.
Ben, c'est sûr qu'une blessure au genou pour un défenseur qui est autant mobile, c'est sûr que ça fait mal parce que ça frappe direct dans ses forces. Donc là, c'est clair que lui, il devait être un peu plus inquiet d'être à 100% pour performer sa game comme lui, il est capable de le faire. Là. Donc, c'est sûr que la blessure, ça lui fait mal.
Mais ouais, mais tu sais, est-ce que c'est un gars qui va jouer sur ta première vague d'avantages numériques? On ne sait pas encore, mais je pense que c'est un bon pari de dire qu'il va être au moins sur ta deuxième vague et c'est un gars qui va bien bouger la rondelle, qui va être rapide, un peu un défenseur nouveau genre.
Donc, ne pariez pas là, sur mise au jeu pour le trophée Calder pour Mathias Norlinder l'année prochaine. Là, il devrait rester à Frölunda. Par contre, vous pouvez parier pour Kirill Kaprizov, Jason Robertson ou encore Alex Nedeljkovic parce que ce sont les 3 candidats au trophée Calder. C'est maintenant connu. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que Kaprizov a les meilleures chances de mettre la main sur le trophée. Est-ce que je suis dans le champ?
Non, pas du tout.
Dollar Bill Kirill. J'ai mon chandail présentement dans ma commode. Il est incroyable. J'ai, Je me suis gardé une petite gêne parce qu'on devrait avoir Zachary Bolduc plus tard. Donc, je me suis dit, je vais me garder une petite gêne, là. Mais tout simplement incroyable comme joueur, là. C'est pas seulement au niveau offensif qu'il apporte, mais sa joie de vivre sur la patinoire. J'ai déjà entendu une comparaison, pas en termes de joueur, mais en termes d'exubérance. Il y a un peu le même impact qu'un Alexander Ovechkin lorsqu'il est débarqué dans la LNH. Alexander Ovechkin, c'était toujours le sourire au visage, toujours le premier à faire la fête, à s'amuser. Puis c'était contagieux pour le reste de ses coéquipiers. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'Kirill Kaprizov. Mm-hmm. Puis tous les. Puis l'exemple du chandail, là, c'est pas une farce, les gars, je l'ai vraiment le chandail. Là.
Ouais.
Mais ça, c'est un chandail que les joueurs du Wild ont fait fabriquer pour s'amuser justement un peu à ses dépens. Sans dire un peu, puis je pense que ça se transpose très, très bien dans le changement de mentalité qu'on va apporter chez le Wild. Et honnêtement, moi, je suis vraiment emballé.
Mais à ce titre-là, Marty. Il fit l'espèce de modèle de russe exubérant, hyper enthousiaste. Alexander Radulov apportait ça à Montréal aussi.
Mm-hmm. Ben oui, tout à fait.
Mais Marty, honnêtement, Marty, tu es un peu un spécimen rare parce que j'en connais pas beaucoup des gens qui sont partisans du Wild depuis plusieurs années et qui ne viennent pas de la région du Minnesota. Honnêtement, en Amérique du Nord, je pense que c'était peu probable.
Qu'est-ce qui dit que je ne suis pas né au Minnesota?
Ah, voilà. Mais je pense que maintenant, avec Kaprizov et ses prouesses, je pense qu'on va en voir de plus en plus des partisans du Wild parce qu'il a transformé cette formation-là. C'est maintenant une concession que moi, j'aime regarder. Pas que je n'aimais pas voir les matchs joueurs, là, mais c'est des matchs un peu beige. Tu sais, c'était moins spectaculaire. Ce n'est pas avec des Ryan Suter, qui est un très bon joueur de hockey, mais que tu vas nécessairement attirer le regard des amateurs de hockey. Là, je pense que Kaprizov, ça fait la différence. Il a transformé cette formation-là. Et honnêtement, c'est un honneur bien mérité. Il va remporter le trophée de la recrue de l'année. Ouais. Et honnêtement, je lui lève mon chapeau. Il a connu toute une saison.
Et c'est pas que Jason Robertson n'a pas connu lui aussi une bonne saison, mais je pense que tu regardes deux gars qui ont des saisons semblables sur le plan des statistiques, mais t'en as un qui a amené son équipe en série, et je pense que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire en sorte que Kaprizov va gagner le trophée assez facilement. Là, je m'attends pas à ce que ça soit proche.
Mais au-delà des statistiques, c'est les gars, on en a parlé avec Jean-François Chaumont, c'est les journalistes qui votent pour ce trophée-là. Puis là, si t'as à comparer entre Jason Robertson, puis honnêtement, Jason Robertson, je l'ai déjà dit, j'ai toujours adoré ce joueur-là depuis qu'il a 17 ans, depuis son année de repêchage. Je trouve que son lancer est vraiment dévastateur. Puis il va connaître une excellente carrière dans la LNH. Puis honnêtement, si tu compares seulement les joueurs, là, je pense que c'est assez serré. Cependant, là, tu regardes tout ce que Kaprizov a fait, les buts spectaculaires qu'il a marqués. Là, il change complètement le visage d'une organisation au complet, alors que Robertson... C'est pas vraiment le cas. Il y a eu une bonne saison sur le premier trio, une bonne chimie avec Joe Pavelski.
Ben, il a quand même remplacé Tyler Seguin à merveille. Là. C'était une grosse perte pour les Stars.
Non, c'est certain. Mais de là à dire qu'il a complètement changé l'allure de l'organisation, pas au même niveau. Et comme je viens de le dire, les journalistes vont toujours porter davantage attention aux jeux spectaculaires. Donc, ben, je pense que c'est pour ça que ça donne une petite longueur d'avance à Kirill Kaprizov.
Puis Marty, tu dis les buts spectaculaires, mais je te dirais aussi les buts importants parce qu'à plusieurs reprises, Kaprizov va marquer le but égalisateur en troisième période. C'est lui qui est sur la glace en fin de match. C'est sur lui que l'équipe du Wild repose. Et ça fait toute la différence. J'enlève rien à Jason Robertson. Il a connu une très bonne saison. Là. Il a 17 buts, 45 points. Mais Kaprizov a 27 buts.
Ouais.
Ça, c'est une énorme différence. Donc, je pense qu'on s'entend tous pour dire que Kaprizov va transformer la formation du Wild du Minnesota. Puis pendant qu'on parle de Jason Robertson, rapidement, je veux juste saluer mon ami Jean-Michel qui nous suit à chaque semaine. Un gros fan de Jason Robertson. Alors, Jean-Michel, voilà, c'est fait. Je te salue. Alex
Nedeljkovic. Avec raison.
Avec raison. Il a connu une très bonne saison. 932 d'efficacité, moins de 2 buts par match. Malheureusement, là, il a perdu son filet en série. Mais tout de même, je pense qu'on doit reconnaître le travail du gardien des Hurricanes. Là, il a vraiment été spectaculaire tout au long de l'année.
Ben, je veux rien lui enlever. Puis oui, il a connu une bonne saison. Mais il y a un gros bémol à apporter, puis c'est la défense des Hurricanes. Okay? C'est une défense qui est très hermétique. Et les Hurricanes en ont utilisé des gardiens.
De jeu aussi.
Oui, oui. Les Hurricanes en ont utilisé des gardiens lors des dernières années. Ils n'étaient pas tous bons. Mais il réussissait quand même à afficher des statistiques qui étaient potables, à avoir des performances qui étaient décentes. Puis c'est en grande partie grâce à la défense des Hurricanes. Là. Je veux dire, tu regardes leur brigade, il n'y a pas beaucoup de chances de marquer accordées par ces défenseurs-là.
Tu as un bon point, Nick. Puis en plus, quand tu vois ce que tu regardes Alex Nedeljkovic devant le filet, là, ça manque un peu, il manque un peu de technique. Là. Il y a un peu, ouais. Le terme, c'est boîte à lunch, si tu veux. Là, je suis pas en train de le dire comparé à Tim Thomas, ouais. Mais il y a des tendances à ça. Et ces gardiens-là, lorsque tu as une défense étanche qui va comme bloquer les retours, je pense que c'est un peu plus facile pour ces gardiens-là de se démarquer. Tu stoppes le premier lancer, puis par la suite, il n'y a pas de retour. Ça serait peut-être pas mal différent si, comme tu dis, là, la défense des Rickies n'était pas aussi dominante, parce qu'on va se le dire, là, ils avaient Jake Gardiner dans les gradins pendant la majorité de la saison. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu se permettre de faire ça. T'sais.
Mais Jacob Slavin, on en parle peu, là, mais s'il avait chaque année un trophée remis au meilleur défenseur défensif, ce gars-là le gagnerait 5 saisons de suite. C'est pas compliqué, là.
Mais d'ailleurs, lui, Jacob Slavin, il est candidat au trophée Lady Bing pour un défenseur. Là, c'est arrivé une fois, je pense, dans l'histoire. Puis là, il est finaliste. Mais ça en dit long à quel point. Selon moi, c'est peut-être, avec Alexander Barkov, un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH.
Ben, Marty, Slavin aurait dû gagner Lady Bing l'an passé, là, tant qu'à moi. Si t'es un défenseur et t'es dans la course, tu devrais avoir un avantage par rapport aux autres. Parce qu'un défenseur, t'es bien plus porté à prendre des pénalités. Là, tu joues dans ton territoire.
C'est sûr.
Tu joues avec le bâton constamment dans les coins, tu peux, ben, là, à un moment donné, tu peux tout simplement l'échapper.
À mon avis, là, dans mon livre à moi, si t'es candidat, si t'es parmi les finalistes au trophée Lady Bing et t'es un défenseur, je veux dire, le trophée devrait te revenir genre automatiquement.
Je reviens sur Nedeljkovic parce que j'ai un point à apporter. Là, pour les gens qui ne le savent pas à la maison, je suis un grand fan de baseball. Puis parfois, quand un frappeur va arriver et qu'il n'a pas encore vu un lanceur, n'est pas encore habitué à les tendances, pourrait se faire retirer, mais quand ça va être la deuxième ou la troisième fois dans le match, va pouvoir s'habituer pour réagir parce qu'il sait ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a une possibilité que les attaquants des équipes adverses ont été un peu surpris par le style de Nedeljkovic et que sa saison l'année prochaine pourrait être un peu plus difficile, un peu comme Andrew Raycroft qui a gagné le Calder puis finalement qui n'a pas eu la carrière espérée. Pensez-vous que Nedeljkovic, ça va être plus difficile l'année prochaine parce que là, les adversaires vont savoir à quoi s'attendre?
Ben, tu soulèves un bon point parce que maintenant, c'est rendu big dans le NH, là, le pre-scouting qu'on appelle, l'espèce de processus là, de repérage, de recrutement avant les matchs. Ben, pas de recrutement, là, mais on fait beaucoup de vidéos pour examiner les tendances de l'adversaire. Et malheureusement, ces tendances-là vont avoir été connues, mettons, maintenant à long et en large la saison prochaine. Alors, si on a repéré une faiblesse qui est vraiment évidente dans son jeu, ben, cette faiblesse-là va être exploitée là, chaque match, là, sans exception. Maintenant l'an prochain.
Mais tu sais, en même temps, puis tout ce qu'on vient de dire sur Nedeljkovic, c'est légitime, mais je pense qu'il y a une différence par rapport à lui et Andrew Raycroft, qui a également éclos sur le tard, mais Nedeljkovic a toujours quand même eu une certaine réputation lorsqu'il était jeune. C'est quand même un gardien qui a joué au mondial des moins de 18 ans, a joué avec les Américains au championnat mondial des moins de 20 ans. Il a tout simplement gravi les échelons normaux qui sont pour un gardien de but, si on veut, là, d'arriver dans la Ligue américaine à 20 ans, de disputer plusieurs saisons, puis lorsque tu es prêt, arriver dans la LNH dans les alentours de 24 ou 25 ans. Je pense qu'il y a une petite différence là-dessus. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Là, probablement que on va voir l'année prochaine, là, lorsque les attaquants adverses se seront mieux préparés, qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Là, c'est sûr qu'il va avoir un gros ajustement. Mais je veux juste dire que c'est quand même un gardien qui avait un beau potentiel.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est pas que... je pense que c'est un bon gardien. Je pense pas que c'est une future vedette là, devant les filets. Là.
Ouais. Mais c'est pas nécessairement mauvais non plus. T'sais, je pense que dans un contexte de plafond salarial où tu dois gérer en budget et que tu vois des gardiens comme Jordan Bennington, comme Nedeljkovic, justement, performer à des salaires de 800-900 000 $ ben ça devient, avec des choix tardifs également, pas nécessairement des choix de premier tour, ben je pense que ça devient intéressant d'avoir ces joueurs-là quand même sous la main là, plutôt que de devoir accorder un contrat de 6, 7 ou 8 millions à des gardiens. Puis un gardien qui va faire le travail quand même, là, qui peut faire le même travail que, je donne un exemple comme ça, la Frédéric Anderson à Toronto, par exemple.
C'est parce que pas tous les gardiens grassement payés qui vont avoir l'impact de Carey Price. Là.
Ou Spencer Knight versus Sergei Bobrovsky en Floride.
Exactement, là, ces gardiens sont assez uniques et les directeurs généraux essayent vraiment, vraiment d'aller trouver le prochain Carey Price et vont faire pleuvoir les billets verts sur ces gardiens-là, mais finalement, ils vont se rendre compte que ben, les Carey Price, les Vasilevski, ben, c'est difficile d'aller à leur trace parce qu'ils sont beaucoup trop rares, finalement.
Mm-hmm. Bon, ça, c'était les trois candidats au Trophée Calder. Je pense que ça n'a pas vraiment surpris personne. Là. Mais j'aimerais ça quand même qu'on approfondisse le sujet parce que ce sont souvent ces trois joueurs-là qui revenaient. J'aimerais ça qu'on y aille de notre quatrième étoile. Une recrue qu'on n'a pas vraiment entendu parler tout au long de la saison, mais qu'on a quand même apprécié le travail qu'ils ont fait. Si je vous demandais là, votre joueur là, qui vous a que vous avez aimé sa saison en général.
Moi, je veux dire, c'est l'attaquant des Devils, Yegor Sharangovic. Vous connaissiez pas ce nom-là avant le début de la saison. Et les Devils, j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait cette saison. Ils ont fait confiance à leurs jeunes, à un noyau de jeunes attaquants, et Sharangovic en faisait partie. Il a fait des jeux cette saison là, qui demandaient un haut niveau d'habileté. Et lui, je trouve que c'est une belle histoire parce que son développement stagnait à un certain moment. On n'aurait jamais cru qu'il aurait accédé à la LNH. Mais finalement, il a corrigé des défauts majeurs dans son jeu, là, notamment son coup de patin qui l'empêchait justement d'accéder à ce niveau-là. Et c'est devenu franchement un très, très, très bon joueur, là, je trouve, pour les Devils. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire la saison prochaine.
Ouais, il a quand même ramassé 30 points dans 16 buts. Là. C'est une excellente saison là, pour le joueur recru.
Joueur assez complet également aussi. Puis quelqu'un qui a fait ses preuves avant de s'amener dans la LNH aussi, il avait un bon début de saison au niveau de la KHL avant que la saison reprenne. Là, lui, c'est un Belarusien, donc il jouait pour le Dynamo Minsk. Puis,
ouais, c'est ça. Mais lui, il avait fait deux saisons dans la Ligue américaine, plus ou moins concluante là, à Binghamton. Après, il est allé dans la KHL et c'est vraiment là, je trouve, qu'il a ressuscité sa carrière. Là. C'est l'année d'après ben, là, qu'il a rejoint les Devils, qu'il a fait l'équipe et finalement, il s'est établi dans la Ligue.
Non, puis tout à fait. Puis c'est là que le développement, je trouve, des joueurs de. Là, je vais dire URSS, là, ça inclut le Bélarus, ça inclut la Lettonie, etc. J'ai toujours trouvé que le développement se fait toujours un peu plus tardivement. T'as toujours des joueurs comme ça qui arrivent à 21, 22, 23 ans qui ne sont pas nécessairement des espoirs de premier plan parce que le modèle russe est un peu bizarre. T'as autant des équipes comme le CSKA de Moscou ou le SKA de Saint-Pétersbourg qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pleins de vedettes dans la KHL, vont prendre, ben, Alexander Romanov en est probablement le meilleur exemple. Tu prends ces jeunes-là parce que tu as un règlement de faire jouer deux joueurs de moins de 20 ans, mais tu les fais jouer peut-être 3 ou 4 minutes.
Exactement.
Je n'exagère pas quand je dis ça, là, 3 ou 4 minutes. C'est bel et bien ça. Mais tu as aussi des clubs un peu moins forts comme le Dynamo Minsk, par exemple, qui, eux, peuvent se permettre d'utiliser des joueurs un peu plus jeunes, leur donner plus de temps de glace et parfois, comme dans le cas de Sharangovic, ça donne des résultats par la suite. Tu es capable de te développer un peu plus sur le tard. Puis ben là, en ce moment, les Devils en récoltent les dividendes.
Oui, puis Dadonov, là, on a vu ce qui s'est passé. Là. Il est revenu dans la LNH beaucoup plus tard. Mais avant, là, ben, c'était un bon espoir dans le temps. Puis quand il avait commencé avec les Panthers de la Floride, il n'avait pas été exceptionnel. Là. Puis là, il y a eu un long hiatus après. Il a décidé de s'exiler. Puis là, il est revenu. Puis là, tu vois, il est arrivé à un niveau très intéressant. Là, mais c'est là que tu vois, des fois, il y a une espèce de délai avec le développement des joueurs russes. Ben, parce que aussi, c'est complètement un différent style de jeu là-bas, c'est une mentalité différente. Puis il y a aussi une barrière de langue. Et ça, je pense pas qu'on peut la négliger. Regardez ce qui est arrivé avec un russe, Arsène Kisamoudinov. Arrivé à Laval, le gars était complètement dépaysé. Là. Mmh. Non, mais c'est vrai. Puis même Joël Bouchard l'a remarqué, parlait pas du tout anglais. C'est difficile de communiquer avec lui. Le système de jeu, certaines subtilités du jeu nord-américain, il a pris beaucoup de temps à s'adapter. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas de talent, mais ça va lui prendre du temps, lui, avant de s'acclimater.
Ton joueur, Marty.
Moi, je suis un joueur un peu plus conventionnel. C'est un ancien choix de premier tour, mais que parfois, lorsque tu vas dans des... quand tu parles à des gens qui ont des ligues simulées ou des pools de hockey, commençait peut-être à perdre patience un peu. Moi, c'est Owen Power que j'ai bien aimé, là, surtout vers la fin de la saison. Il a été longtemps...
Tu veux dire Tippett?
Owen Tippett, oui. Owen Power.
Ouais. Owen Power. Ouais, autant, ouais. Je me suis mêlé avec Owen. Ouais, oui, Owen Tippett, exact. Mais Owen Tippett, il a joué plusieurs saisons dans la Ligue américaine. Là, cette année, a finalement réussi à se tailler un poste. Puis, il a récolté un peu les fruits de la bonne saison des Panthers, si tu veux. Là. Puis, s'est retrouvé rapidement sur un deuxième trio, jouait en série avec Jonathan Huberdeau et Sam Bennett. Là. C'est quand même pas rien. Puis, faisait vraiment le travail. J'ai adoré ce que j'ai vu en série. D'ailleurs, présentement, c'est le meilleur pointeur des séries chez les recrues. Là, on verra ce que Cole Caulfield peut faire. Là. Il est pas très loin. Mais Owen Tippett, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai toujours adoré ses talents de marqueur. J'ai toujours trouvé qu'il avait un excellent lancer. Ça avait peut-être tardé à se mettre en marche, mais là, présentement, de ce que j'ai vu, ça se démarque beaucoup. Puis je pense que j'ai l'impression que la grosse critique qu'il avait à son endroit par le passé, c'était sa constance. Puis là, j'ai l'impression qu'il travaille peut-être, sans dire que que c'est parfait, là, j'ai tendance à penser qu'il travaille peut-être davantage. Puis ça, c'est intéressant. En tout cas, on verra bien sa progression, mais moi, j'ai bien aimé sa saison recrue. Puis ben, c'est prometteur pour la suite, surtout qu'il joue quand même avec d'excellents joueurs en Floride. Là.
Moi aussi, je suis allé avec un choix de premier tour là, qui avait quand même un énorme potentiel puis que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une bonne saison. C'est Dylan Cousins avec les Sabres. Lui, ça a été quand même plus difficile. Honnêtement, je m'attendais à plus, surtout par rapport à ce qu'il avait fait avec Team Canada. Mais j'ai aimé sa fin de saison. Il a terminé avec 7 points en 8 matchs en avril et ce, avec une équipe qui allait nulle part. Tu sais, je veux dire, t'es un jeune, t'arrives dans la LNH, c'est sûr que c'est le fun, tu veux te donner à 100%. Mais là, tu fais les manchettes parce que tu joues avec les Sabres et ils ont leur séquence de défaites hallucinante. Ça va vraiment pas bien. Mais Cousins, c'est quelqu'un qui se présentait. On l'a vu à deux occasions jeter les gants pour tenter de ramener son équipe dans le match. J'ai aimé ce que j'ai vu. Il va devoir en donner plus. C'est clair, je regarde ses chiffres. Là. C'est pas la meilleure des saisons là, avec 4 buts, 13 points dans 41 parties. Là. Mais c'est un joueur qui a du potentiel. Puis moi, j'ai aimé ce qu'il a apporté aux Sabres de Buffalo. D'agir comme ça en tant qu'étincelle à un aussi jeune âge, moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais là, il devra mettre plus de points sur la feuille de pointage l'année prochaine, mais j'ai confiance en Dylan Cousins. Mm.
Un excellent championnat mondial junior aussi également. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, là, les commentateurs de TSN utilisaient constamment le terme là, de Workhorse from Whitehorse, parce que Dylan Cousins est originaire de Whitehorse au Yukon. Qui n'est pas commun, c'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du Yukon. Mais ça pour dire, je pense que tu parlais de ses statistiques à Dylan Cousins, je pense qu'il faut simplement modérer un peu les attentes. J'adore Dylan Cousins, je trouve qu'il a un bon coup de patin. C'est quelqu'un qui travaille excessivement fort dans les coins, là, c'est toujours quelqu'un qui va se présenter tous les soirs. J'ai jamais l'impression que son jeu offensif ne va pas nécessairement se transposer dans la LNH. Je pense que ça va être davantage un bon joueur de deuxième trio qui est très complet. Mais de là, de s'attendre à des saisons de 70, 80 ou 90 points, moi, j'irais pas là nécessairement.
Je ne suis pas nécessairement d'accord parce que je verrais peut-être en lui un peu de Ryan O'Reilly, moi.
Mm-hmm. OK, intéressant.
Peut-être qu'il pourrait faire quelques saisons de 70, 75 points, être utilisé à toutes les sauces là, puis vraiment avoir un impact majeur. Là.
Puis là, il faut s'attendre à ce que les Sabres probablement coupent les ponts avec Jack Eichel. Est-ce que ça va faire en sorte que Cousins ait un rôle plus important? Mm-hmm. Ça aussi, ça va être à surveiller l'année prochaine parce qu'il n'y a rien de plus...
Mais on va s'entendre sur une chose, les gars. Les Sabres ont besoin de joueurs comme Dylan Cousins en ce moment s'ils veulent vraiment changer la culture de l'organisation. Là.
Exact, parce que moi, un peu comme Marky vient de le dire, c'est son ardeur au travail que j'ai remarqué. Ouais. C'est sûr qu'il va devoir produire plus, mais ça, au moins, on ne peut pas lui reprocher. Il travaillait match après match.
Ben, tu sais, c'est pas nécessairement... Je vais prendre un exemple au Minnesota. Tu as Joel Eriksson-Ek qui a eu une excellente saison. C'est pas un désaveu de dire que tu as un centre de deuxième trio non plus. C'est efficace. Tu as besoin d'un excellent top 6 pour faire le travail et te rendre loin. Les Maple Leafs de Toronto sont peut-être le meilleur exemple. Là, oui, ils ont 4 excellents joueurs, mais le top 6, est-ce qu'il était vraiment solide? Les 6 joueurs, peut-être pas. Cousins, ça, dans ce côté-là, va être utile au Sabre. Si tu le mets sur un deuxième trio puis tu peux l'utiliser, comme Nick vient de dire, à toutes les sauces, ben honnêtement, c'est pratiquement mieux que des joueurs qui vont faire 10 ou 20 points de plus. Mm-hmm.
On reste avec les Sabres plus que ce sont eux qui ont remporté la loterie. Ils auront le luxe de repêcher au tout premier rang lors de l'enquête le mois prochain. Les Sabres qui arrivent au premier rang, tout juste devancés. Ils devancent tout juste le Kraken de Seattle qui repêchera deuxième. Messieurs, on s'amuse un petit peu aujourd'hui. Je veux des prédictions. Compte tenu de ce que vous pensez des joueurs et des besoins des Sabres, quel joueur pensez que la formation de Buffalo va ramasser en juillet?
Ben moi, je vois tout le monde dire que c'est Matthew Beniers qui va sortir au deuxième rang. Et je trouve ça un peu farfelu parce que c'est pas un repêchage dans lequel on peut y aller de prédictions là, avec assurance. Là. On peut pas simplement conclure que Beniers va aboutir à Seattle.
Ben moi, tu vois, c'est ça que je trouve drôle. Tout le monde prend pour acquis sur mon feed Twitter
moi aussi,
que Owen Power est le choix unanime. J'enlève rien à Win Power. Il est très, très bon. Et il a été excellent avec le Canada là, au championnat mondial là, des derniers jours. Mais de là à dire que c'est une évidence à la Austin Matthews, à la Connor McDavid, attention, s'il vous plaît.
Absolument.
Moi, la question que je me pose, puis vous savez, les gars, moi, ma philosophie, c'est prendre le meilleur joueur disponible. Vous connaissez ma philosophie, puis j'en déroge pas. Je pense que c'est une erreur d'aller pour la position.
Mais surtout dans le top 10, là.
Surtout dans le top 10. Mais dans le cas des Sabres de Buffalo, il faut quand même que tu t'interroges. Considérant qu'il y a 7 ou 8 joueurs à peu près semblables, tout le monde a un choix différent pour le premier choix total. Tu peux avoir Brent Clark, tu peux avoir Owen Power, tu peux avoir Matthew Baker, tu peux avoir Dylan Gunter. Il y a plein de choix. Fait ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, si tu regardes la formation des Sabres, le meilleur défenseur gaucher, ben c'est Rasmus Dahlin, c'est un ancien premier choix. Donc, est-ce que tu veux prendre Owen Power pour le faire jouer automatiquement sur une deuxième paire ou vice-versa? Là, Rasmus Dahlin se retrouve sur une deuxième paire. Puis je comprends qu'il peut y avoir des transactions. Là. Mais je vais juste simplement me demander est-ce qu'il serait peut-être davantage tenté d'aller sélectionner un défenseur défensif ou plutôt pas défensif, mais droitier ou un ailier? La question se pose, je pense. Mm-hmm.
Ça sera intéressant à surveiller. On aura la réponse en juillet prochain. Messieurs, on a un invité de grande classe aujourd'hui. On est vraiment content de l'accueillir. On est chanceux parce qu'il sera repêché par une équipe de la Ligue nationale le mois prochain de l'Océanique de Rimouski. Zachary Bolduc se joint à nous. Salut, Zachary.
Mm-hmm. Salut, les gars.
Mm-hmm. Merci de prendre le temps d'être avec nous dans le podcast La Relève. C'est très gentil.
Yeah, ça fait plaisir.
Zachary, on le sait, bon, je viens de le mentionner, tu vas être repêché le mois prochain par une équipe de la Ligue nationale. À quel point est-ce que c'est stressant? Tu te sens-tu fébrile? T'es-tu content d'enfin savoir avec quelle organisation tu vas évoluer pour les prochaines années?
Ouais, ben c'est sûr que c'est excitant. Écoute, on a hâte que ce jour-là arrive. Puis pour l'instant, je suis juste à me préparer puis imaginer des petits scénarios dans ma tête. Puis ce qu'on sait présentement, c'est que le repêchage va se faire sur Zoom. Donc, on est en train de regarder avec ma famille et qui va être là. Fait que c'est sûr que je suis fébrile. Puis, ça va être, je suis super excité et ça va être vraiment une belle journée.
Moi, j'étais curieux, Zach, de savoir, t'en étais où un peu dans le processus? Est-ce que t'as parlé à des équipes? Là? Je sais que la ronde d'entrevue n'est pas nécessairement commencée. C'est quoi le feeling que t'as eu en parlant des recruteurs à travers la saison?
Je te dirais, là, j'ai une petite liste là, qui fait que mm-hmm. je sais à combien d'équipes après j'ai parlé. Puis jusqu'à présent, j'ai eu 27 équipes. Donc,
27 équipes.
27 ouais. entrevues. Puis, ouais. ça va bien, là. Écoute, mon anglais était so-so, mais mm-hmm. Avec les entrevues que je fais, mon anglais est toujours de mieux en mieux, puis
ouais.
Je me sens de plus en plus confortable, puis apte à dire comment je me sens, puis mes opinions en anglais. Là.
En tout cas, j'espère que tu es prêt pour l'entrevue avec les Coyotes, s'il y en a une, là, parce que je sais pas si tu as entendu parler de des compatriotes, là, des fois, leurs questions... peuvent sortir un peu les sentiers battus, là.
Ouais, non, j'ai pas eu... Je suis pas sûr, je pense que j'ai pas eu Arizona encore en appel, donc... mais je vais écrire à quelques gars, voir s'ils ont eu l'entrée pour m'informer.
En tout cas, puis juste une dernière, les gars, après, vous pourrez poser vos questions. Moi, ce que je trouve qui ressort dans ta game, c'est que tu as un coup de patin, tu sais, en anglais, on va dire « smooth ». Ton coup de patin est hyper smooth. Je trouve que tu as trouvé vraiment le bon équilibre. Là. Je veux dire, quand quelqu'un patine et essaie de mettre trop d'efforts, c'est là que tu vois qu'il y a peut-être un problème dans la mécanique. Mais toi, on dirait que tout est parfait de A à Z, là, l'économie de mouvement, tout. Je me demande, c'est comment que tu as développé ça? Je sais qu'avec la technologie de nos jours, là, les gars ont des skating coach, ont des ressources que les joueurs n'avaient pas avant.
Ouais, ben écoute, j'ai été vraiment choyé. Là, au courant de ma jeunesse, j'ai joué dans un programme de hockey. Ça s'appelait Denis Francœur, l'Académie de Denis Francœur. Puis je pratiquais 4-5 fois semaine. Puis on avait tout le temps un petit 30 minutes de. Entre 20 puis 30 minutes de power skating. Puis d'habileté mm-hmm. sur nos wedges. Puis nos patins. Fait, ça m'a vraiment aidé. Puis encore aujourd'hui, là, jeudi qui s'en vient, j'ai une pratique. Puis c'est avec les mêmes entraîneurs. On fait pas mal les mêmes choses. Un petit 30 minutes de power skating. Après ça, c'est des. Des skills individuels, là, des trucs pour qu'on s'améliore individuellement puis qu'on arrive un petit peu meilleur à tous les autres, à nos camps.
En tout cas, ça paraît.
Merci. On travaille fort.
Ce que je veux t'entendre, Zachary, tu parles justement du programme Marie de l'Incarnation avec Denis Francœur. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, Denis Francœur, c'est un ancien entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan pendant une dizaine d'années. Là, c'est une sommité dans la région de la Mauricie. Là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce programme-là? Je sais que Denis Francœur, c'est une grosse tête de hockey, mais je me suis surpris de voir les joueurs avec qui tu as évolué ou dans les rangs scolaires, etc. Jacob Guévin est également admissible au repêchage. Il y a Guillaume Richard, qui lui est un défenseur de Québec, mais qui a également fait partie de ce programme-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce programme-là? Est-ce que la technique de Denis Francœur est vraiment... qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Trois-Rivières, dans le fond?
Ben, j'ai commencé, ça a commencé il y a quand même longtemps, là, en quatrième année. De ma quatrième année jusqu'à secondaire 3, j'ai joué dans ce programme-là. Puis, je pense qu'en quatrième année, Denis et Sébastien Lomé là, sont deux dans ça. Puis, ils ont vraiment été avant-gardistes. Puis, ils ont vraiment, ils se sont vraiment inspirés du côté européen, ce qu'ils faisaient les Finlandais, les Suédois. Travaillaient beaucoup sur les habiletés individuelles. Puis, je pense qu'ils ont amené ça ici. Puis là, ça veut pas les gens, ils regardent ce que les autres font, puis ils s'inspirent. Fait que je pense que ça a été vraiment... j'ai vraiment été chanceux, puis ça a vraiment été bon pour mon développement d'aller là. Puis, ils ont juste... ils se sont inspirés des gens, des Européens qui, eux, avaient des habiletés incroyables. Donc, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient, puis ils se sont inspirés de leur pratique. Là.
Ah, c'est pas fou. Auparavant, là, mettons, dans le temps où j'ai pas joué à ton niveau, là, mais dans le temps que moi j'étais au hockey mineur, c'était un peu la critique, là, pas assez d'emphase sur les habiletés individuelles, puis constamment, des matchs, où j'imagine ça joue un peu moins de rencontres, mais davantage axé justement sur le développement du talent individuel, dans le fond.
Oui, exactement. Dans le fond, au scolaire, on jouait un ou deux matchs par fin de semaine, puis la semaine, on pratiquait quatre ou cinq fois, fait que, tu sais, la majorité des exercices qu'on faisait, c'était avec une rondelle tout le temps parce que tu pratiques comme tu joues, puis tu sais, quand tu as une rondelle. Donc, c'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment été chanceux. Puis, encore aujourd'hui, je pratique avec eux une, deux fois par semaine. Là, au mois de juillet, ça va être deux fois. Présentement, c'est une. Fait que, tu sais, je suis vraiment reconnaissant. Puis, pour moi, c'est des gens qui vont rester proches de moi, puis qui vont rester importants dans mon développement dans le hockey.
Zachary, on le sait, là, l'année de repêchage est une année excessivement importante là, dans la carrière des jeunes joueurs de hockey. Malheureusement, toi, tu n'as pas été épargné par les blessures. À quelques occasions, tu as été blessé, notamment une épaule, tu as eu une appendicite par le passé aussi. Tu as manqué toute la fin de la saison et les séries éliminatoires en raison d'une blessure au bas du corps. À quel point c'est frustrant de ne pas pouvoir être sur la glace et de te prouver quand tu veux démontrer à tout le monde que tu es capable de jouer au hockey pour améliorer ta sélection au repêchage?
C'est sûr que c'est frustrant, mais en même temps, ça fait partie du monde du hockey. Je pense que il y a aucun joueur qui réussit à se faire réussir à avoir une carrière dans la Ligue nationale sans se blesser. Puis je pense que de surmonter une blessure, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette année. C'est frustrant, mais en même temps, tu peux pas t'apitoyer sur ton sort. Je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est te retrousser les manches, puis travailler encore plus fort, puis t'assurer que ta blessure à l'épaule, elle revienne pas, puis te renforcer. Puis, je pense que mon caractère aussi, il a vraiment il a pris un step durant cette année-là. Ça a été frustrant, mais j'ai vraiment grandi en tant que personne. Puis, je pense que aussi le fait d'avoir resté à Rimouski avec une année un petit peu plus difficile, ça m'a vraiment aidé à grandir en tant que leader là, auprès de mes coéquipiers.
En tout cas, il y a une personne moi à qui j'ai parlé qui était énormément déçu de ne pas te voir dans la bulle à Shawinigan durant les séries. Ben c'est notre ami Alexandre Régimbal de l'LHMQ qui s'est justement joué à nous. Là. Alex, je suis pas mal sûr que t'as pas mal été déçu de ne pas pouvoir voir Zach évoluer. Là. En plus, une belle surprise, là, le Sané qui avait surpris les Cataractes, là, ça. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout.
Ben, en fait, pire que ça, je dirais, j'ai même pas vu l'Océanique une fois cette saison. J'ai vraiment été malchanceux. Là. J'ai failli aller les voir à un certain moment, mais les plans ont changé là, avec les bulles, tu sais, la planification, c'était pas toujours évident. Fait que j'ai même pas eu l'occasion de voir Zachary à sa deuxième saison de mes yeux vus. Je l'ai vu toute la saison, par contre. Mais ouais, quelle surprise de l'Océanique qui bat les Cataractes. Il y avait tout toute une équipe, eux autres. Là. Alors, ils ont créé, c'est peut-être la plus grosse surprise des séries. Là. Certains diront peut-être que c'est les Tigres, mais il reste que moi, je voyais les Tigres assez forts quand même. Là, mais toute une surprise pour l'Océanique. Puis Zachary était une grande partie de l'Océanique de Rimouski cette année, encore une fois.
Mais ouais. Moi, je me demandais, Zach, d'ailleurs, quand tu vas parler aux équipes de la NH, aux recruteurs, c'est comment tu vas te vendre comme joueur? L'organisation qui te repêche va avoir quel joueur?
Ouais. Là, c'est sûr que c'est pas mal répétitif là, à travers les entrevues. Ouais. C'est souvent les mêmes questions puis les mêmes réponses. Mais ce que je réponds, c'est que je suis un gars qui a un bon coup de patin, qui a une bonne vision du jeu, qui a un caractère, qui aime pas perdre puis qui a un bon lancer puis qui est capable de créer des jeux aussi. Puis je suis un gars qui aime être avec les gars. Puis je suis un gars d'équipe puis j'aime ça les sports d'équipe là. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball, donc c'est vraiment, j'aime vraiment les sports d'équipe, puis c'est quelque chose que j'aime vraiment là, d'être dans la LHGMQ.
Qui était le meilleur au baseball entre toi et Lafrenière?
Ah ben moi j'ai joué depuis que je suis jeune. Là, c'est sûr que on a joué une petite game
au début. Tu peux le dire, c'était meilleur que lui. Là.
Ouais, on a joué une petite game au début de l'année. Écoute, les gars, c'est quand même des athlètes, là, ils savent jouer, mais c'est sûr que je dirais pas que j'étais meilleur, mais Alexis Tou, il avait joué quand il était jeune, donc il était vraiment bon aussi. Fait que on était deux bons joueurs de baseball, je te dirais.
Petite question, là, comment vous êtes débrouillé au tournoi de balles données sur glace de Saint-Fabien? Moi, ma famille vient de la région de Saint-Fabien, Saint-Eugène de la Drière, donc c'est pour ça que je connais le tournoi. Comment vous êtes débrouillé l'Océanique à ce tournoi-là?
Non, on n'a pas eu la chance d'y aller. On n'a pas participé à ce tournoi-là, malheureusement. Okay. Cette année, là, avec la COVID, je ne sais pas si ça a eu lieu, mais l'année passée non plus, on n'a pas. Notre calendrier est quand même chargé, là, pratique. Puis quand on ne pratique pas, c'est parce qu'on joue. Puis... fait que c'est sûr que on a le temps de faire des petites choses entre nous les gars, mais des activités de cette envergure-là, on n'a pas vraiment eu la chance de les faire.
Ouais, mais je veux rebondir sur ta description de ton style de jeu, puis je vais reprendre les propos de. À TVA Sport, on a un collègue qui s'appelle Alain Chainé, qui est un ancien décruteur des Ducks d'Anaheim, recruté les Corey Perry, Ryan Getzlaff, puis j'en passe là. Puis lui disait souvent. Un joueur qui s'évalue bien, c'est très bien. Puis moi, je peux te confirmer, puis t'avoir vu jouer souvent, Zachary, que tu t'évalues extrêmement bien. Je trouve que c'est exactement ça. Puis j'ai donné une séquence à Anthony, là, c'est une séquence de cette saison contre les Remparts. Là. Je trouve que ça illustre parfaitement. Tu mets de la pression, tu réussis à créer un revirement, fonce au filet. Par la suite, la séquence se poursuit, mais c'est un superbe jeu dans le coin. Je trouve que c'est exactement ça. T'arrêtes jamais. Constamment dans le visage de l'adversaire, puis en plus, tu es capable d'ajouter un petit peu d'habileté individuelle à travers ça. Là. Ça va se terminer avec une chance de marquer. Là. Et, honnêtement, je te lève mon chapeau pour vrai. Moi, je trouve que c'est exactement ça. Là, comment tu t'es décrit, c'est exactement ça.
Ouais, merci, gentil.
Le fameux travail sur les edges, on l'a vu d'ailleurs sur la vidéo, là, quand ils pivotent dans le coin. Là. Mm-hmm. Ça porte vraiment fruit quand tu veux te créer de l'espace dans les zones restreintes. Là. Ouais. Ça va vraiment t'aider dans la Ligue nationale, ça.
Ouais, ouais, ben, c'est des choses qu'on pratique durant l'été. Puis, ouais. Tu sais, que je fais maintenant naturellement, là, tu sais, que c'est rendu des habitudes. Puis, tu sais, c'est des méthodes pour moi de me donner de l'espace et du temps. Là.
Exact.
Zachary, dans les derniers jours, tu as remporté le trophée Mike Bossy remis au meilleur espoir professionnel. Ça doit être flatteur quand même de se faire comparer à Mike Bossy, de remporter un tel honneur. Tu sais, je veux dire, je reviens un peu à tes blessures. Tu n'as pas joué beaucoup de rencontres cette année. Ben, d'être quand même souligné puis remarqué, à quel point tu étais satisfait de mettre la main sur ce trophée-là?
Ben, c'est sûr que j'étais super heureux, écoute, mais en même temps, c'est juste un trophée puis c'est. C'est juste le début de quelque chose. Comme que je dis lors de mes entrevues, c'est d'être repêché pour moi, c'est juste le début d'une longue en espérant une longue carrière. Fait que il reste beaucoup de travail à faire. Puis c'est sûr que j'étais super heureux. Puis de voir la façon qu'ils ont annoncé ça avec Mike Bossy puis Louis-Jean de TVA Sports, c'est vraiment flatteur, puis je suis vraiment content. Puis, je tiens à féliciter les deux autres gars ici aussi qui ont été nominés là, avec moi. Là.
Puis justement, Mike avait un petit mot à dire parce que c'est peut-être pour toi juste un trophée, mais pour lui, c'est important de te partager ceci.
Salut Zachary, ici Mike Bossy. Écoute, je voulais juste te féliciter pour avoir gagné mon trophée cette année. Tu as un bel avenir dans le hockey. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler fort. et bonne chance pour le futur.
Donc, voilà un petit mot de Mike Bossy.
Ouais, c'est gentil, j'apprécie.
Les avantages de travailler à TVA Sport, on est tous des. Ben, par rapport à Alex, mais c'est un ancien collègue, là, on est tous des envies de TVA Sport, donc un petit avantage là-dessus.
Zachary, la centrale a dévoilé sa liste. Je suis convaincu que tu es déjà au courant. Tu as été classé 17e en Amérique du Nord. Honnêtement, c'est très, très bien. Est-ce que tu es satisfait de ce rang de classement? Est-ce que tu attends de voir plus haut, plus bas? Comment tu as vu ça? Ou pour toi, c'est juste une donnée, on prend ça avec un grain de sel?
Ah ben c'est sûr que tu sais, je veux pas au courant de l'année, il y a eu quelques listes qui sont sorties, puis moi j'aime quand même ça regarder ça. Écoute, juste de voir où les gens me situent, puis je m'en fais pas trop avec ça, mais juste par curiosité, voir où les gens me situent, puis à qui me comparer, par exemple. Puis c'est sûr que écoute, j'étais content. Pour un gars qui a pas eu la chance de jouer une saison complète, puis qui a pas été vraiment épargné par les blessures, je suis quand même satisfait, mais. C'est juste une liste, puis la vraie liste, il y en a 30, la vraie liste, 32, puis c'est chacune des équipes. Donc, moi, personnellement, je suis content de 17, mais si je peux sortir plus tôt, je vais être encore plus heureux, puis si c'est plus tard, je vais être aussi content. Là, fait que je m'en fais pas trop avec ça. Écoute, j'étais content, puis c'était une petite tape dans le dos pour moi de continuer à travailler, puis que mes efforts portaient fruit.
Mm-hmm. Hey, Zachary, moi, je suis pas un joueur de hockey, puis je te confirme que si je l'étais, là, je serais jamais repêché dans la Ligue nationale. Là. J'ai pas du tout le coup de patin, mais je présume que pour un joueur de hockey, c'est le rêve de tout petit gars d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que ça te fait cette année de ne pas pouvoir vivre pleinement ce rêve-là parce que ça va se passer par Zoom, ça se fera pas en personne, tu seras pas là avec ta famille. À quel point c'est décevant?
Ah, ben c'est sûr que je dirais pas décevant. Écoute, je pense qu'avec ma famille ici, je vais être capable de créer de quoi de spécial, puis avec mes proches, ma famille, c'est sûr que ce sera pas dans un aréna avec plein de personnes, mais on va faire ça à l'interne, puis je vais pouvoir avoir pratiquement toute ma famille, tous mes amis, fait que on va essayer de faire de quoi de spécial malgré le fait que c'est pas en présentiel, mais puis tu sais, comme tu as dit, là, un rêve, honnêtement, c'est un rêve de jeunesse, mais en vieillissant, pour moi, mon rêve a un petit peu changé là. Je te dirais que tu sais, présentement, mon objectif, c'est d'atteindre la Ligue nationale, d'avoir un impact dans l'équipe que je vais avoir, que je vais être repêché. Puis c'est d'avoir une carrière plus qu'un an, puis de remporter une Coupe Stanley. Puis c'est mon rêve, il a évolué au courant des années. Puis je me rapproche de ça, puis je me rends compte que c'est accessible. Donc ça me pousse à continuer à m'entraîner fort puis à pratiquer fort aussi sur la ligne.
Zach, je me sens un peu obligé de te questionner là-dessus parce que, bon, on sait ce qui se dit avec les joueurs québécois à Montréal. On en veut plus, mais c'est pas nécessairement facile pour un Québécois de jouer avec les Canadiens. On a vu ce qui s'est passé avec Jonathan Drouin, par exemple. La pression, ça peut être difficile à gérer. Toi, tu verrais ça comment être repêché par les Canadiens?
Honnêtement, j'entends parler souvent. Les gens qui parlent de la pression, puis les gens qui sont négatifs, positifs, puis qui ne sait jamais s'ils sont contents ou heureux. Mais honnêtement, je pense que je serais vraiment heureux. Mm-hmm. Il y en a qui ne souhaiteraient pas être repêchés. Ben moi, je serais vraiment, vraiment heureux d'être là. Avec les jeunes qui poussent, les Caulfield, les Suzuki, Kotkaniemi, mm-hmm. c'est le fun de les voir aller. Puis je suis capable de m'imaginer dans cet alignement-là dans 2-3 ans. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui est vraiment excitant pour moi, mais tout va se passer au repêchage. Ouais.
Les joueurs two-way là, qui se défoncent au travail à Montréal, là, ils sont appréciés puis on les aime. Là. Regarde ce qui se passe avec Philippe Dano. Là, ces gars-là sont applaudis. Fait, je pense que tu serais rapidement adopté par la foule là-bas.
Ouais, mais c'est sûr que tu peux pas toujours jouer ton meilleur hockey, puis c'est pas tout le monde qui va aimer la façon que tu vas jouer. Mais ce qui est important, c'est toi. Puis ce que les gens disent à l'extérieur, je pense que c'est plus ou moins important. Je pense que c'est vraiment ta business à toi. C'est gérer tes affaires, puis t'entraîner fort, puis juste t'arranger pour être prêt, puis pas de performer le mieux que tu peux.
Hey, j'ai une question intéressante par rapport aux Canadiens, justement, Zach. Là. S'il y a un joueur avec qui tu trouverais que tu aurais une belle chimie par le style de jeu, si tu avais un joueur à nommer, ce serait lequel, tu penses?
Ce serait Nick Suzuki. Je pense que c'est un gars, il est intelligent, il a un bon patin. Il est capable de jouer une game physique. Le gars, il est complet. Puis, il a vraiment l'air d'une bonne personne. Je ne connais vraiment pas, mais je le regarde sur le banc. Puis, des fois, on voit des petites vidéos, hors de la glace. Il a l'air d'une vraiment une bonne personne. Puis, une personne de fun à côtoyer. Donc, je dirais Nick Suzuki. Ouais.
Ça ne te dérangerait pas de jouer à l'aile par hasard?
Non. Ben, écoute, c'est sûr que j'ai joué, les deux dernières saisons. Là, après Noël, j'ai joué à l'aile. Donc, rendu quand même confortable à jouer à l'aile. Puis, je suis maintenant rendu autant à l'aise au centre qu'à l'aile. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif pour moi, là, pour mon futur. Puis, non, ça ne me dérangerait vraiment pas de jouer à l'aile.
On le sait, Zachary, tu joues pour l'Océanique de Rimouski, mais à la base, tu avais commencé en USHL. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé de la USHL à l'Océanique? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait pencher la balance?
Oui, bien, c'est sûr. Écoute, je vais vous raconter l'histoire dans le fond. Moi, j'ai joué Midget 3 au Stacade ici à Trois-Rivières. Ensuite, je me suis fait repêcher dans la USHL, puis dans la GMQ. Donc, depuis que j'étais jeune, j'allais aux États-Unis visiter voir des matchs universitaires, puis voir comment que ça fonctionnait, parce que, tu sais, le côté de la GMQ, on le savait, tu sais, puis on savait comment que ça fonctionnait. Donc, moi et ma famille, puis mes agents, on tenait vraiment à aller essayer le côté américain. Donc, j'ai été jouer dans un prep school pendant un mois et demi, à peu près, Mount St. Charles Academy. Puis, j'ai passé vraiment un mois et demi en anglais, pratique, école, tout en anglais. J'ai pu vivre ça avec deux de mes meilleurs amis, là, Joachim Lemay puis Guillaume Richard. Il y avait aussi Anthony Clich qui était là. Ça a vraiment été un mois que j'ai vraiment appris, puis que mon anglais s'est vraiment amélioré. Puis là, après ce mois-là, après un mois et demi, la saison USHL commençait. Donc, l'équipe de la Sioux City, les Mousquetaires de Sioux City m'ont rappelé pour commencer la saison avec eux. Puis, j'ai joué les deux premiers matchs, puis mes agents étaient là, Pat Brisson, puis Ethan Fink, c'est mes agents de CA. Puis ils ont vu que j'étais capable de jouer contre des gars de 18-19 ans. Donc, la décision était de voir si je voulais, quel des deux chemins était le mieux pour moi. Puis, durant l'été d'avant, j'étais allé visiter Rimouski, rencontrer les entraîneurs. Puis, j'ai vraiment eu une belle chimie, puis une belle connexion avec les groupes d'entraîneurs-là. Puis, ça m'a permis aussi de revenir à Rimouski. Ça m'a permis d'avoir une famille de pension incroyable que, honnêtement, j'aurais pas pu avoir mieux. C'est des gens avec une bonne valeur. C'est un petit gars, Olivier. J'ai vraiment du plaisir avec Léonie. J'ai aussi beaucoup de plaisir avec elle. Donc, c'est vraiment, tu sais, je suis vraiment heureux de la décision que j'ai prise. Puis, je peux vraiment pas me plaindre là, d'être revenu à Rimouski.
Et donc, essentiellement, pour rebondir là-dessus, ce serait quoi l'avantage des deux ligues, si tu veux? Dans le fond, la LHGMQ, si tu es davantage prêt contre des joueurs plus âgés, tu es peut-être mieux d'aller du côté de la LHGMQ. Puis si tu es plus ou moins prêt pour te développer plus à ton rythme, si tu veux, les collèges américains sont peut-être meilleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le comprendre?
Oui, dans le fond, la LHGMQ, souvent, c'est de 17 à 20 ans. Puis à 20 ans, là, soit tu joues universitaire ou tu joues dans la Ligue américaine ou il y en a quelques-uns qui jouent dans la Ligue nationale. Mais du côté américain, tu peux jouer dans la USHL une ou deux ans. Après ça, tu rentres dans ton université, puis là, il te reste 4 ans. Donc, tu as 4 ans, puis là, tu joues au hockey, tu fais de l'école, puis en même temps, tu sors de là avec un diplôme universitaire. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose de vraiment pas possible. Puis tu as beaucoup de temps. Tu joues moins de matchs que dans la LGMQ. Tu t'entraînes beaucoup, mais c'est vraiment deux situations qui sont très très bonnes, qui préparent les jeunes pour le futur. Mais il y en a qui sont, il y a des styles de personnes, des styles de joueurs qui ont besoin de temps pour se développer, puis il y en a qui sont déjà prêts, qui sont arrivés à maturité pour jouer contre des gars plus vieux. Donc, je pense que c'est vraiment ça la grosse différence.
En tout cas, Alex s'en plaindra certainement pas. Ça lui permet de couvrir un excellent joueur de hockey, hein, probablement, Alex.
Moi, j'ai la chance de côtoyer plein d'excellents jeunes joueurs de hockey, surtout plein de bonnes personnes. C'est l'avantage du hockey junior. On est plus proche. Les athlètes sont un peu plus accessibles aussi. Là, puis, je peux vous dire que dans les deux dernières années, J'ai eu beaucoup de chance, Zachary. Je pense qu'on a fait une ou deux entrevues ensemble, peut-être, là, l'année passée, je me souviens, à Blainville. Je pense que c'est ton premier match ou deuxième, enfin. Là. Ouais. Mais non, j'ai eu la chance, j'ai une chance incroyable de pouvoir côtoyer ces jeunes talents-là. Et c'est le fun de les voir gagner. C'est difficile même des fois de les voir perdre parce que tu t'attaches à ces joueurs-là d'une certaine manière, surtout quand tu les côtoies un peu plus. Mais en même temps, on est content de les voir partir pour la Ligue nationale, même si des fois, ça nous fait mal au cœur un peu qu'on ne pourra plus les côtoyer au quotidien. Puis je te souhaite, Zachary, de jouer dans le niveau le plus haut possible pour toi, le plus rapidement possible. Et puis, ben c'est pas grave. Si on n'aura pas fait 10 entrevues, je vais être content pour toi quand même.
C'est good, merci. Ouais, je mets les efforts, puis... je mets toutes les chances à mon côté pour atteindre mes objectifs. C'est le premier rêve.
D'ailleurs, on va devoir se voir avant la fin de la saison parce qu'il nous reste une entrevue à faire avant le repêchage.
C'est good.
Hey, juste une petite question, Zach. Je regarde tes mensurations sur HockeyDB. Ça dit 6 pieds 1, 175 livres. Est-ce que c'est exact?
Ouais, c'est ça. C'est exactement
ça. Puis comment de livres de masse musculaire t'aimerais ajouter idéalement là, avant ton arrivée dans la LNH?
Je te dirais que mon objectif, là, l'idée que j'ai dans ma tête, là, ce serait environ d'arriver à 190 livres, 195 livres, d'être prêt parce que la Ligue nationale, c'est tu joues contre des hommes, puis faut que tu sois prêt. Donc, je m'entraîne fort, puis j'essaie tout le temps je me nourris bien, je m'entraîne fort, j'essaie de faire les petites choses qui vont m'aider à prendre un petit peu de poids, puis à prendre de la force musculaire.
Ouais, sans nécessairement sacrifier en vitesse, là.
Ouais, exactement.
OK.
Zachary, je veux pas te mettre sur le spot, là, mais je pense que c'est important au moins d'en glisser un mot. Il y a quelques rumeurs qui circulent. Évidemment, c'est normal que tu es un joueur d'impact, que tu es un joueur qui est convoité. Il y a plein d'équipes qui aimeraient ça faire ton acquisition. Qu'est-ce que ça fait de voir ton nom circuler comme ça dans les médias, de savoir que les gens aimeraient ça mettre la main sur un Zachary Bolduc pour la suite des choses, qu'une équipe qui veut aller loin plus avoir la chance de mettre la main sans nécessairement commenter les rumeurs, là, mais plus est-ce que c'est flatteur de savoir que les formations veulent t'avoir dans leur formation?
Oui, bien sûr, c'est flatteur, mais écoute, moi je suis vraiment bien traité à Rimouski, puis comme je l'ai dit tantôt, ma famille de pension est incroyable, j'aurais pas pu tomber mieux, puis le groupe d'entraîneurs, puis on a une jeune équipe, écoute, on grandit ensemble, puis je pense qu'on a déjà fait des belles choses cette année en playoff. Puis, tu sais, là, on va tout avoir un an de plus de maturité. Donc, je pense qu'on peut créer des belles surprises dans les années à venir. Puis, c'est sûr que de voir les rumeurs, c'est spécial. Mais écoute, ça fait partie du monde du hockey. Mm-hmm. Et ça, il va toujours en avoir dans le monde du hockey.
Mm-hmm. L'Océanique a finalement été éliminé en série contre les Foreurs. Eux qui, selon plusieurs, avaient la meilleure équipe sur papier cette année à la LHJMQ. Est-ce que tu as été surpris de voir les Foreurs se faire battre en finale par les Tigres? Tu as quand même affronté les deux équipes. Là. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de voir Victoriaville, le champion de la Coupe?
Ben, honnêtement, c'est sûr que, comme la majorité des gens, je croyais que Val-d'Or allait sortir vainqueur de tout ça. Mais en même temps, je suis pas. Je suis surpris, mais en même temps, je le suis pas. Val-d'Or avait vraiment une équipe bâtie solide, puis remplie de talent, puis de gars à pleine maturité. Mais Victoriaville, c'est vraiment une équipe. Qui travaille fort, qui n'a pas nécessairement le plus de talent, mais qui travaille fort, qui joue bien son système de jeu, qui ont un bon gardien. Je pense que leur gardien a vraiment, vraiment bien fait ça. Puis je pense que les vétérans de Victoriaville ont vraiment élevé leur jeu. Puis je pense que ça l'a vraiment paru. Puis je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Victo a réussi à sortir avec la victoire. Là.
Ce qui est intéressant de la victoire des Tigres, puis vous me direz, les boys, vous fouillerez dans votre mémoire, là, puis Zachary, la même chose, mais les deux gardiens ont eu de l'importance dans ces séries-là pour les Tigres. Et il me semble que dans les dernières années, c'est quand même rare de voir les deux gardiens jouer des rôles importants, peu importe que ce soit au niveau junior ou la Ligue nationale de hockey. Dans les séries, là, souvent, les coachs ils font un choix. Là. Mais là, dans le cas qui nous occupe, là, les deux, Fabio Jacobo et Nicolas Urtubiz, ont joué des rôles importants. Avez-vous déjà vu ça, vous, les boys, que les deux gardiens aient des rôles importants dans une série gagnante?
Ben, advenant le cas d'une blessure ou sinon, tu sais, je peux penser à Cam Ward, Martin Gerber, il y a très, très, très longtemps, mais c'est effectivement très rare là, qu'on voit ça. Puis Junior, moi, honnêtement, de mémoire d'homme, là, ça me dit rien.
Peut-être les Flyers là, avec Michael Layton il y a une couple d'années, là, mais encore Layton, là.
L'exemple qui revient souvent, là, puis là, c'est sûr, là, je retourne loin dans le temps. Là, je suis même pas certain, Zach, que tu étais né. Là, mais le Wild du Minnesota en 2003 avait le tandem Manny Fernandez et Dwayne Rolofsson, puis avait quand même gagné deux tours éliminatoires. Donc ça, c'est un exemple, là, mais sinon.
C'est de gagner la coupe, c'est une autre chose.
Là, c'est peut-être ce que Pete DeBoer a tenté de faire là, en envoyant Robin Lehner dans le match numéro 1.
Mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Zachary? Tu les as affrontés, les Tigres. Tu dis que tu étais un peu surpris, mais qu'est-ce qui t'a marqué de cette victoire-là des Tigres? Qu'est-ce qui a été le game changer pour eux autres, selon toi, si tu as vu les matchs, évidemment?
Ben, je pense que leur intensité, leur commitment, je pense que tous les joueurs étaient engagés puis étaient prêts à sacrifier leur corps, que ce soit pour bloquer des lancers ou prendre une mise en échec. Je pense que, tu sais, je dis pas que Valdor l'ont pas fait, mais je pense qu'eux l'ont vraiment bien fait. Puis je pense que ça les a vraiment aidés au courant de la série. Puis comme j'ai dit, tu sais, les vétérans, là, les Alex Bocage, les Sean Element, je pense qu'ils ont vraiment élevé leur jeu d'un cran. Puis je pense que ça l'a paru, puis ça a eu un impact sur pas mal toute l'équipe. Puis aussi leur gardien. Fait des arrêts clés au bon moment. Puis écoute, et comme mon père dirait, les gardiens, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, je pense que ça part de là. Je pense que quelqu'un, un goaler, peut le garder dans le match. Même quand tu donnes quelques chances, je pense que c'est là que tu peux sortir de là avec une victoire. Fait que, je pense que le gardien a vraiment eu. Tu sais, les deux gardiens ont vraiment été bons. Mais je pense que Valdor, le goaler de Victoriaville, a vraiment fait des. Surtout en prolongation, je me rappellerai d'un 2 contre 1 à un moment donné.
Ouais, ben moi, mais tu sais, j'étais au match, là, le dernier match, et je l'ai regardé attentivement. Et je peux vous dire que. Ça allait que d'un côté pour l'essentiel du match, à côté des Foreurs. Là, c'est vraiment Hurtubise qui a volé ce match-là. Parce que du début de la deuxième période jusqu'à la fin de la prolongation, là, c'était pas mal avantage Foreurs, mais Hurtubise a fait la différence dans ce match.
Je me trompe pas, les Foreurs ont apporté de gros ajustements à leur jeu de transition. Il y a beaucoup de difficultés à traverser le centre. Puis là, avec les ajustements qu'ils ont apportés, ils étaient capables davantage d'attaquer la zone adverse, puis ça a rapporté, mais là, c'est ça, l'Urtubise a vraiment été excellent, là, fait des bons arrêts pas mal tout le sixième match, là, notamment.
Ouais.
Zachary, merci beaucoup pour ton temps et ton passage au podcast La Relève, c'est très apprécié, on va te suivre avec grand intérêt dans les prochaines semaines, on te souhaite un bon repêchage et une belle carrière, t'es très bon, puis je suis sûr que tu vas aller très loin dans la Ligue nationale.
On se reparle après que tu seras repêché au premier tour du prochain encamp, puis Alex, lui, ben, on va t'avoir déjà parlé, mais on le réinvitera aussi.
Good, merci, Zach. Merci pour votre temps.
Merci à toi, Zachary.
Un bon kid, honnêtement. Ouais. Tu vois que c'est une bonne personne. Des entrevues avec les équipes, je suis sûr que les équipes vont se dire ça. Là. Un bon petit gars.
Mais joueur intelligent, puis là, j'ai pas eu le temps de le relancer là-dessus, mais tu sais, son parcours, veut pas. Il est passé du midget 3 à Trois-Rivières à se retrouver dans un prep school au Rhode Island pour ensuite aller jouer en Iowa, puis revenir à Rimouski, qui est pas nécessairement proche de Trois-Rivières ou de Bécancour. Ouais. Ben, ça montre à quel le joueur a du caractère, qui a vécu plusieurs expériences. Donc, lui, tous les aléas qui peuvent venir avec la vie d'un joueur professionnel, je pense qu'il est peut-être mieux outillé pour faire face à ça que d'autres joueurs qui n'ont pas traversé ces épreuves-là, puis même les blessures, etc. Là, ça, c'est quelque chose d'important, je pense.
Il y en connaît un qui connaît le tabac aussi, là, qui est probablement encore en contact, un certain Alexis Lafrenière. Là, je suis pas mal sûr qu'ils ont pu se parler, question qu'ils puissent se préparer pour cette saison-là. Là.
Ouais. Ça m'a l'air d'un gars sympathique. Il a toujours un petit sourire. Là. C'est un gars qui a une attitude positive dans le vestiaire, on dirait.
Ah, puis tu parles de voyager beaucoup, Marty. Là. Évidemment, je ne voulais pas le mettre sur le spot, là, mais je pense que c'était important d'en parler parce que ça fait quand même 2 jours que la nouvelle est sortie. Là. Et, selon toute vraisemblance, il sera échangé à Québec l'an prochain. Ouais. Et c'est quelque chose de jouer pour un gros marché, de jouer pour Patrick Roy, de jouer au Centre Vidéotron. Mais je pense qu'il a la tête à la bonne place. C'est un joueur qui est assez intelligent pour faire face à cette pression-là. Puis honnêtement, je suis sûr qu'il va réussir avec brio ce nouveau défi.
Puis, d'ailleurs, on dit que Bolduc patine bien, puis je trouve que tu as bien patiné pour poser cette question-là.
Mais non, mais je voulais pas le mettre sur le spot. C'est pas ça qu'on a revu, mais c'est juste que c'est un élément de nouvelle. Je veux dire, tout le monde l'a vu passer. Ça fait déjà 3 jours que la nouvelle est sortie. Puis je voulais vraiment pas le mettre dans l'embarras parce que je sais comment ça fonctionne. Je veux pas que le jeune se prononce, puis là, finalement, les équipes sont fâchées après lui, mais c'était quand même
je suis d'accord. Je voyais que c'est ça, quand tu posais cette question-là, Réginbald, il s'enterrait dans sa calotte. Là. Il était pas mal nerveux. Là.
Non, mais il faut juste rappeler que la Ligue n'a pas confirmé cet échange-là. Aucune
non, oui,
non
c'est
plus
ça.
N'a confirmé.
Non, je sais, Alex, mais tu sais comment ça fonctionne.
Il faut juste garder ça en tête. Bon, les gars, je vais vous remercier parce que je m'en vais dans un autre enregistrement de podcast.
Un homme occupé.
Pour tous les enjeux de tennis, le podcast sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada, qui est très excellent, mais évidemment pas dans le même registre que nous. On vous invite à l'écouter sur les ondes du 91.9 Sport aussi, si vous êtes évidemment des amateurs de tennis. Après notre podcast. Après.
Ben, on est sur toutes les plateformes de balado aussi. Là, fait que vous n'êtes pas obligé de choisir un d'eux. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. On fait l'analyse de mi-tournoi de Roland-Garros, messieurs, aujourd'hui.
Qui gagne Roland-Garros?
Ah, ben ça, c'est une bonne question. Du côté des hommes, moi, j'avais prévu que ce serait probablement Nadal.
Okay.
Et pour l'instant, je suis encore bon.
Ben, c'est plus que chez les femmes que je demandais dans le fond. Là.
Ben, écoute, il y a tellement eu une bonne saison de terre battue à date. Et du côté des femmes, c'est Swiatek, c'est la championne en titre.
Ouais, tu vas pas miser sur Osaka, je pense, cette année.
Non. Et je miserai pas sur Shapovalov, Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime non plus. Merci beaucoup, les boys. Alors, je sais pas votre bon travail. Merci de parler de la RG aussi, d'encourager les espoirs comme Zachary
qui est. Et puis avant que tu quittes, Alex, je veux juste féliciter tout le monde de la LHJMQ, autant le personnel entraîneur, les joueurs, les organisateurs. Super belle saison, ça a vraiment été cool. Vous avez été capable de A à Z de terminer la saison dans des conditions extrêmement difficiles cette année. Donc, à toi et tous tes collègues, je vous lève mon chapeau parce que pour les amateurs de hockey, c'était réconfortant d'avoir la LHJMQ à notre portée.
C'est vraiment gentil. Puis, tu sais, j'étais là quand la coupe s'est soulevée, j'étais sur la glace. Puis, tu sais, ça me rendait fier de voir le travail de la Ligue. On a travaillé fort, on a travaillé comme des fous dans l'incertitude de tout le monde, puis on a quand même réussi à couronner un gagnant, puis avoir une saison qui a été, en tout cas, d'un point de vue hockey, là, presque normal. D'un point de vue spectacle, c'est une autre chose, étant donné qu'il n'y avait pas de spectateurs, bon, étant donné que les horaires ont bougé un peu, etc., là, c'était plus compliqué même faire les broadcasts de télé pour les raisons COVID.
Format des séries aussi.
Oui, exact, qui a changé parce qu'il a fallu qu'on s'adapte à toutes sortes de situations, mais c'est quand même phénoménal d'avoir pu couronner un gagnant. Puis au final, on va avoir permis à ces jeunes-là justement de continuer de se développer et d'avoir un spotlight peut-être plus intéressant pour les recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Alors, chapeau à M. Courteau, son équipe. C'est pas fini parce qu'il y a encore un gala qui s'en vient, un repêchage LHJMQ qui s'en vient, puis le repêchage LNH, messieurs. Fait que on n'est pas en congé encore.
On aime ça, on aime ça comme ça.
Yeah. Bye les boys.
Merci. Salut Alex. Un dernier mot, messieurs, pour conclure ce podcast?
Non, mais ben, je dirais que le Canadien, là, s'il se rend en finale d'association, ben, finale d'association, c'est plus ça, hein, je suis complètement
mêlé.
Ce qu'il faut comprendre, là, puis je voulais le préciser dans le dernier podcast et j'ai pas eu l'occasion, c'est que le fait que le Canadien s'est rendu au deuxième tour, ça ne change rien à son choix de repêchage au premier tour pour l'instant. Mais s'il sera en demi-finale de la LNH, là, par exemple, il va descendre un peu au premier tour. Et je trouve que le CH tomberait pas mal dans le range de Zachary Bolduc. Je trouvais que ça concluait pas mal.
En fait, c'est ça. Il y a quatre possibilités pour le Canadien en ce moment. Il repêche 17e. Du moment qu'ils battent les Jets, ils vont repêcher 29e. Et s'ils accèdent à la finale de la Coupe Stanley, ce sera 31 ou 32e, dépendamment s'il remporte ou non le trophée. Puis je suis d'accord avec toi, Nick, c'est effectivement dans le range de Zachary Bolduc. Et il me semble quelqu'un qui serait capable de faire face à cette pression-là de Montréal. Donc, je pense que...
Ouais.
Mais là, c'est intéressant. C'est pour ça que c'était vraiment plaisant de l'avoir avec nous aujourd'hui. Là. Mais là, d'entendre qu'il y a 27 équipes qui lui ont parlé, puis je sais qu'en tant qu'équipe, tu dois t'informer davantage. Sur
c'est quand même un choix pressenti. C'est comme un joueur pressenti pour être sélectionné au premier tour. Là, donc, c'est pas si surprenant que ça.
Mais oui et non, mais c'est dans le sens que j'ai l'impression que plusieurs équipes l'aiment. Donc, tout ça pour dire que si les Canadiens glissent à 29, moi, de ce que je vois selon les listes, puis de ce que Zach vient de nous dire, pratiquement Goody qui sera plus disponible au rang 29.
Oui, mais il y a t'as du lousse pour peut-être trade up de quelques rangs là, si tu l'aimes vraiment. Je suis sûr que.
Puis il faut aussi mentionner que les Canadiens ont beaucoup de choix au repêchage, donc ils pourraient se le permettre. Là, voilà. C'est pas compliqué. Là.
Bergevin a des munitions là, s'il veut vraiment Zachary Bolduc. Ouais.
Ce sera à surveiller dans les prochaines semaines. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vais arrêter de dire le mot semaine. Et messieurs, merci beaucoup encore une fois pour votre présence au podcast La Relève. Yes. Encore une fois, c'était très intéressant. Et je vous souhaite de passer une belle journée.
Yes, pareillement.